Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, et si sauver la planète commençait par notre assiette? Dans un livre qui paraît aux éditions de l'Olivier, l'avenir de la planète commence dans notre assiette, l'écrivain américain Jonathan Safran Foer pointe les ravages, les dégâts de l'élevage industriel sur l'environnement et plaide pour un nouveau régime alimentaire. Comme dans ses romans, il en passe par le prisme d'histoires individuelles et personnelles, par la petite histoire pour faire comprendre la grande histoire qui est en train de s'écrire actuellement. Alors pourquoi ce déni et cette inertie face au réchauffement climatique? Et que faire? Comment se la raconter, comme on dirait aujourd'hui? Bonjour Jonathan Safran Foer.
Hello.
Et bonjour à votre voix française, Marguerite Capelle.
Bonjour.
Bonjour. La crise du climat est une crise aussi culturelle et donc une crise de l'imagination, dit l'essayiste indien Amitav Ghosh que vous citez. Pour vous, elle est d'abord une crise de croyance. En quoi?
Eh bien, je pense qu'autrefois, c'était une crise du savoir. Certaines années, il y a eu des années où on manquait d'informations, tout simplement. L'influence du lobby des énergies fossiles ou du lobby agricole parvenait à dissimuler la vérité ou à nous en tenir à l'écart. Mais aujourd'hui, tout le monde sait.
Everybody listening to this radio program knows.
Tous les gens qui écoutent aujourd'hui ce programme à la radio savent que la planète se réchauffe à cause de l'activité humaine.
Knows what those activities are.
Savent quelles sont ces activités.
So I am one of the people who knows.
Et donc, je fais partie de ces personnes qui savent,
who cares,
qui se préoccupent
and
de ce sujet,
act as if he doesn't know
et qui
or doesn't
pourtant
care.
Font comme s'ils ne savaient pas ou ne s'en préoccupaient pas.
And I think in my case, I can't speak really for other people,
et
but in my case,
je pense que dans mon cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas personnel,
it's because the climate crisis feels
c'est parce que la
far away,
crise climatique me semble lointaine,
like happening in another part of the world,
comme si
or
elle se produisait dans une autre partie du monde ou dans l'avenir.
And also, there are such strong incentives to forget about it.
Et il y a aussi énormément de pression qui nous pousse à oublier.
You know, if all it took to solve the climate crisis,
si la seule chose qu'il fallait pour résoudre cette crise climatique, c'était de cesser de nous mettre des claques à nous-mêmes,
we would have solved it a long time
on
ago.
Aurait résolu ce problème il y a bien longtemps.
But the things that we have to do less of are things that we'd like.
Mais en fait, il faut qu'on fasse moins de choses qu'on aime faire.
Alors, vous avez réfléchi à la question du récit, Jonathan Safran Foer, comme l'a travaillé ici en France Cyril Dion, disciple de Pierre Rabhi, le père de la sobriété heureuse, dans un livre qui s'appelait « Petit manuel de résistance contemporaine ». On serait pour vous en manque de récits positifs pour saisir, comprendre ces enjeux?
Il me semble.
Because the climate change is so abstract.
J'ai l'impression que parce que le changement climatique est tellement abstrait, tellement vague, tellement complexe,
it's very hard to feel in any kind
of immediate de le ressentir de façon immédiate.
Mais
on n'a peut-être pas besoin d'attendre le bon récit. On n'a peut-être pas besoin d'attendre le bon ressenti.
If we were in a store.
Si nous étions dans un magasin et qu'il y avait quelque chose, par exemple, qui nous plaît, on ne volerait pas pour autant. Ce n'est pas parce que nous aurions en mémoire le contrat social qui nous empêcherait de voler ou parce qu'on avait peut-être une empathie très forte pour le propriétaire du magasin. En fait, si on ne vole pas, c'est parce que simplement nous ne sommes pas des personnes qui volent. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui nous pousse à devenir des personnes qui ne volent pas à l'environnement, qui ne volent pas à notre avenir.
Mais bien
sûr, c'est un long processus, un long voyage, nous n'y sommes pas encore.
Avec ce livre, L'avenir de la planète commence dans notre assiette, vous n'avez pas choisi la voie du roman, mais celle de la non-fiction, de l'essai. Pourquoi ne pas écrire un grand roman du changement, de la transformation dans le présent, ou une science-fiction?
Why didn't you write a great novel is a great question.
Pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit un grand roman sur ce sujet-là? Ça, c'est une excellente question.
I would always choose it.
En fait, si je pouvais choisir, je choisirais toujours cette formule.
But it's not my choice.
Mais
you
en fait, ça ne relève pas d'un choix.
Limited abilities.
J'ai des capacités limitées.
I like the idea of somebody writing a novel.
J'aime l'idée que quelqu'un écrive un roman qui, d'une manière ou d'une autre, parvienne à saisir ce moment de crise.
Somehow captures a solution.
et aussi en même temps une solution.
But I'm not that writer.
Mais je ne suis pas cet écrivain-là.
Anytime I try to imagine
à chaque fois que j'essaie d'imaginer une manière de raconter cette histoire dans le contexte d'un roman,
it felt very manipulative.
J'avais l'impression que c'était très manipulateur. Et aussi malhonnête.
I don't like novels,
je n'aime pas les
like
romans et les romanciers
that have a secret message to share,
qui ont un message secret à faire passer,
encoded in a story.
Quelque chose de codé à l'intérieur d'un
récit.
That
very condescending
je trouve que c'est très condescendant
very patronizing.
Et que c'est une manière un peu très paternaliste
more than anything with this book
d'approcher le lecteur.
Was to
ce que je voulais faire surtout avec ce livre,
look myself in the eyes,
c'était me regarder en face
a reader in the eyes.
Et regarder aussi en face
so
mon lecteur.
This isn't the kind of book that has,
ce n'est pas le genre de livre qui a un message à faire passer au lecteur. C'est une exploration sincère d'un combat intérieur que j'ai ressenti. Et je pense que beaucoup de personnes ressentent le même combat intérieur.
Mais c'est une question, celle du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique qui a besoin, à vous lire, de fiction et d'incarnation. Comment émouvoir et faire date? Vous revenez sur la différence entre Claudette Colvin et Rosa Parks. Même histoire, une femme afro-américaine qui refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus, sauf que l'une a marqué les esprits, l'autre a été oublié. Pourquoi? Qu'est-ce qui les différencie l'une et l'autre? Et de vous demander aujourd'hui, dans cette manière qu'on a de surincarner cette question de nous chercher des héroïnes, est-ce que Greta Thunberg pourrait, pour vous, constituer l'héroïne d'une bonne histoire sur cette question?
Well, when I wrote the book, which
bien, quand j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire à peu près il y a un an, j'ai dit, ce serait tellement plus facile de se saisir de cet enjeu si on avait un héros, une héroïne et un méchant.
Et
si on avait un arc narratif qui soit reconnaissable. Avec un moment de crise très clairement identifié et un moment de résolution. Sauf qu'on n'avait pas ça. C'est très difficile de faire le lien entre les méga ouragans, les incendies de l'Amazonie, les calottes polaires qui fondent, les sécheresses et la plus haute température enregistrée cet été à Paris. Au cours de ces dernières années, de cette dernière année, depuis que j'ai fini d'écrire le livre, on a eu au moins un héros, une version d'une héroïne, Greta Thunberg, et au moins une version possible d'un méchant avec Donald Trump. Et les deux ensemble ont apporté une perspective différente sur le sujet, un éclairage différent, et ont poussé à l'action pour la première fois. Leur manière d'être en concurrence qui, en fait, parle d'environnement, en l'occurrence pour Trump, c'est par hasard, c'est par accident. Mais c'est un problème mondial. Et on n'aura pas un seul héros, une seule héroïne et un seul méchant. On n'aura pas un seul roman. Et on n'aura pas un seul événement climatique qui, d'un seul coup, réveillera tout le monde et qui nous fera prendre conscience qu'on doit faire quelque chose. Je pense que ce sera une accumulation de récits, d'histoires.
Oui, d'autant que l'un et l'autre, ou l'un comme l'autre, à chacun à leur manière, jouent sur ce registre des émotions que vous décrivez et racontez. C'est Jean-Marie Le Clézio qui dit de Greta Thunberg qu'elle incarne aujourd'hui la nostalgie du futur, à l'idée de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous avons laissé se défaire. Je ne sais pas si elle suscite d'ailleurs autant de fantasmes contradictoires ou contrariés chez vous aux États-Unis qu'en France.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. C'est très bizarre, en fait, depuis que je suis à Paris. J'ai fait beaucoup d'interviews ici, et à chaque fois, à chaque interview, on me dit « Pourquoi est-ce que les gens détestent Greta Thunberg ?» Et à chaque fois, je réponds « Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. » Je pense qu'il faut être vraiment malade dans son esprit, dans son cerveau pour la détester. Si quelqu'un voulait dire aujourd'hui, il nous faut davantage que simplement une jeune personne en tant que porte-parole, je dirais, mais oui, bien sûr. Si quelqu'un veut dire qu'elle ne représente peut-être qu'une seule, un seul versant de l'histoire, oui, je suis d'accord également. Mais critiquer, la critiquer de façon personnelle, et toujours de la même manière. Les gens parlent toujours de cette fille de 16 ans. Ils parlent toujours du fait que c'est une fille. Ils ne parlent pas juste d'un jeune de 16 ans. Et je pense que ça exprime bien ce qu'il y a derrière. Un peu de misogynie, parfois. Et et aussi beaucoup de peur.
Une
peur parce qu'aujourd'hui, on sait et on sait qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire.
Nos corps ont des limites, dites-vous, et nos émotions aussi. Il faut donc peut-être aller chercher ailleurs. Mais comment expliquer ce déni? Comment expliquer cette inertie de tout le monde, de la collectivité face au réchauffement climatique? Il y a peut-être à cela des raisons biologiques. Je vous propose d'écouter les mots du journaliste Sébastien Boller, dont le dernier essai s'appelle « Le bug humain ». Il montre comment notre cerveau nous pousserait, au fond, à détruire la planète par la surconsommation, par la suralimentation, au nom d'un plaisir immédiat.
Quand on regarde comment est constitué le cerveau humain, on voit en gros deux grandes parties. Vous avez la partie intelligente à l'extérieur du cerveau qu'on appelle le cortex, vous savez, qui est plissé. C'est elle qui fabrique des Airbus, des smartphones, des écrans à plasma, tout ce que vous voulez. Et puis au cœur du cerveau, vous avez une zone plus enfouie, plus profonde et donc beaucoup plus ancienne, qui était déjà présente chez nos ancêtres primates il y a des millions d'années, même encore avant, il y a des dizaines de millions d'années chez les premiers mammifères, qui s'appelle le striatum. Lui, il façonne nos désirs, nos motivations profondes. Et comment il fait ça? Il le fait en nous donnant du plaisir avec une molécule qui s'appelle la dopamine à chaque fois qu'on fait certaines choses. Et donc il va nous inciter à faire ces choses-là à cause du plaisir qu'on en retire. Et quand on regarde qu'est-ce que c'est que ces grandes motivations, effectivement, elles sont toutes liées à notre survie. Par exemple, je prends la nourriture. Quand vous trouviez une proie à manger, vous n'étiez pas sûr d'en trouver une autre avant des semaines ou des mois, donc vous aviez intérêt à manger autant que possible. Donc il n'y a pas de frein au départ dans le fonctionnement de ce striatum. Simplement, ce qui s'est passé ensuite avec le développement de notre cortex et de notre intelligence, c'est qu'on a inventé quoi? La roue, l'agriculture intensive, l'élevage en batterie, les OGM, les engrais, les pesticides, et les rendements de l'agriculture augmentent, mais toujours au service de ce désir de manger, qui au départ a été configuré pour fonctionner sans frein. Donc le résultat, c'est une société de pléthore alimentaire, par exemple, et comme il n'y a pas de frein qui est prévu au départ, on mange sans limite, donc les courbes de l'obésité s'envolent sur tous les continents, et l'OMS va vous dire qu'on meurt plus aujourd'hui de l'obésité et du surpoids que de la faim dans le monde.
Sommes-nous, comme l'évoque Sébastien Boller, pour vous, biologiquement, chimiquement, incapables de penser sur le long terme? La faute à notre cerveau et à ce striatum, pour vous?
C'est un défi, que nous relevons plusieurs fois par jour. Je ne vois personne à Paris dont le cerveau semble fait de telle manière qu'il se sente obligé de manger des chiens, par exemple. Il y a quelque chose en nous qui nous permet de dire non, je ne vais pas faire ça.
J'imagine
que les désirs sexuels sont encore plus puissants en termes d'évolution, en termes de survie, que les besoins alimentaires. Et pourtant, nous arrivons très bien à réprimer ces désirs dans notre vie quotidienne. La plupart des gens, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ressentent des désirs sexuels au cours d'une journée qu'on pourrait décrire comme étant inapproprié, quelque chose sur lequel qu'on ne peut pas réaliser. Quand les gens réalisent ces désirs, on dit qu'ils sortent de la société telle qu'elle fonctionne normalement et ils sont sanctionnés pour ça. Ce n'est pas quelque chose d'éthique.
Donc
ces différentes formes de désir, de contrôle, se sont développées à un rythme différent. En tant qu'espèce, nous sommes sur une trajectoire, un parcours qui nous amène à mieux réguler, mieux contrôler nos comportements dans l'intérêt de la survie collective, dans l'intérêt de la justice collective. Et nous sommes confrontés à ça aujourd'hui. Nous devons nous détourner d'une forme d'égoïsme, d'individualisme, pour aller vers le collectif.
Plutôt que d'insister dans ce livre, essai Jonathan Safran-Foer, sur la dimension biologique, vous allez beaucoup sur la dimension sociale et culturelle. Très important pour vous d'en passer par là. Quelle sensation associons-nous à la consommation de viande? Quelle relation familière, intime, avons-nous tissé avec ce mets?
Moi, j'ai beaucoup de sentiments, d'émotions associées à la nourriture. J'ai été végétarien par intermittence presque toute ma vie. Parce que quand j'étais enfant,
felt that the story that we told about
j'avais l'impression que ce qu'on nous racontait sur les animaux
was very paradoxical.
Était très paradoxal.
Like we had a family dog,
nous avions un chien
who we loved,
en famille
took good care of.
Que nous aimions, nous en occupions bien.
I was read stories when
on me lisait des histoires avant de dormir avec des héros qui étaient des animaux. J'avais des petits animaux en peluche
take around with me.
Que je prenais partout. Mais ensuite, il y avait cette autre chose qu'on faisait aux animaux, on les tuait et on les mangeait, on mangeait leur corps.
So I found that very, very strange.
J'ai trouvé ça très bizarre.
Which doesn't mean that it's right or wrong.
Ce qui ne veut pas dire que ce soit bien ou mal.
If somebody had explained to me as a child,
si quelqu'un m'avait expliqué quand j'étais enfant comment on fait les bébés, j'aurais trouvé ça très bizarre aussi.
But there's nothing wrong with that.
Mais il n'y a pas de problème avec ça.
That
mais c'était un malaise, un inconfort qui a eu beaucoup d'influence sur ma vie. Un problème de récit, en fait. Mais il y a d'autres choses qu'on peut raconter sur la viande. Des choses très positives.
So the chicken my grandmother would make for me,
par exemple, le poulet que me faisait ma grand-mère.
Kind of primary vehicle of love.
C'était vraiment un outil primitif de nourriture, grill, de transmission de d'amour.
Or the salmon my
ou les repas de fête qu'on partageait.
For a weekend, a special treat in the morning with
ou
a bagel.
Les petits plats spéciaux que préparait ma mère pour le week-end avec un bagel.
As humans, we have to navigate.
En tant qu'humain, on est obligé de se confronter à beaucoup d'histoires différentes et de trouver notre chemin. Parfois, elles se renforcent l'une l'autre et parfois, elles sont conflictuelles.
Meat,
et en ce qui concerne la viande, il y a beaucoup de narrations conflictuelles. Parce que c'est un aliment qui a un goût très agréable, qui fait partie de nos fêtes, de nos rendez-vous sociaux les plus importants, les plus agréables.
Kind of
et c'est aussi l'aliment le plus destructeur que nous puissions manger, ce qui concerne la planète.
Ce livre, il a été écrit pour vous, avec un sentiment d'urgence, ça on l'entend bien, mais aussi de culpabilité.
Well, the urgency is scientific.
Le sentiment d'urgence, il est scientifique. Nous savons que nous n'avons plus qu'un temps limité pour résoudre ce problème. Ce n'est pas une opinion personnelle, ce n'est pas mon point de vue, ce sont juste des faits scientifiques.
And again, we know what activities cause this.
Et encore une fois, nous savons quelles sont les activités qui provoquent ce problème.
The four most important ones are flying,
les quatre plus importantes, c'est l'avion, la voiture, la consommation de viande et le fait d'avoir trop d'enfants.
So the guilt is
donc la culpabilité, elle provient de la manière dont nous vivons notre vie qui n'est pas en phase avec ce que nous savons.
We know that
nous
want
savons
to save the planet,
que nous voulons sauver la planète,
we also know
mais nous savons aussi
that we're participating in the destruction
que nous participons à sa destruction
when we do these things.
En faisant ces quatre activités notamment.
Unfortunately, I think we have a fear of
donc je crois que malheureusement, nous avons une crainte de l'hypocrisie, une crainte aussi de la honte,
very, very difficult to
qui
make
peut rendre très difficile le fait de suivre les étapes de changement qui sont aujourd'hui nécessaires. Je suis terrifié que quelqu'un souligne, pointe du doigt ma propre hypocrisie. Quelqu'un qui me dit, bah, c'est super d'avoir écrit ce livre, mais en fait, vous avez aussi pris l'avion de New York pour venir ici. Ou c'est super d'avoir écrit ce livre sur les animaux, mais vous avez parfois mangé de la viande. Ce serait beaucoup plus facile de simplement m'excuser et refuser d'avoir cette discussion, ou d'y réfléchir, et de continuer à vivre tranquillement ma vie imparfaite.
Et vous le dédiez ce livre, et vous le dédiez ce livre à Sacha et Si, à Sadie et Théo, à Léo et Béar. Je ne sais pas si ce sont tous vos enfants.
How did you know they were kids?
Non, je ne sais pas. C'est une question.
Par curiosité.
Why did you guess their kids? It's interesting, right? Why did
you guess that they're kids? C'est intéressant en fait que vous ayez deviné.
Parce qu'il y a que les prénoms, généralement, quand ce sont des enfants dont le patronyme n'est pas encore identifié, en tout cas, on n'en donne que les prénoms. Et que souvent, un livre qui concerne le présent et l'avenir, un écrivain a tendance à le dédier à ses enfants.
So every book I've written, I dedicated.
Tous les livres que j'ai écrits, je les ai dédiés à des prénoms.
But this is the first one to kids.
Mais c'est le premier qui est dédié à des enfants.
Really interesting and actually very moving.
Je trouve ça très intéressant et en fait très émouvant que vous ayez deviné que c'était des enfants. Vous avez raison.
You're correct. And I think that it's just an expression of an awareness that we have.
En fait, c'est une expression, une façon d'exprimer une prise de conscience que nous avons.
What's at stake when we talk about this?
De ce qui est en jeu, en fait, dans ce débat-là.
We have very, very powerful instincts
just
beneath the surface.
Nous avons des instincts très puissants qui sont juste en dessous de la surface et aussi un savoir très puissant.
That
qui ne demande qu'à se révéler. C'est pas juste quelques minutes à la radio, c'est pas juste un livre de plus, c'est pas juste un débat de plus. C'est notre avenir dont il est question. Et ce qui est nécessaire, c'est pas que nous devenions des personnes différentes, ou qu'on trouve des valeurs différentes, c'est qu'on laisse libre cours, qu'on libère le savoir et les sentiments qui sont là et qui sont juste sous la surface et qu'on a simplement besoin de faire émerger.
La prise de conscience pour vous, Jonathan Safran-Foer, elle est arrivée il y a plus d'une dizaine d'années avec les mots et le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Vous poursuivez donc aujourd'hui cette réflexion sur notre déni, mais aussi les formes d'action possibles pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'objet, c'est le sujet de ce livre. L'avenir de la planète commence dans notre assiette qui paraît aux éditions de l'Olivier. Ceci est un livre sur l'impact de l'élevage sur l'environnement, écrivez-vous. Ce livre est un plaidoyer pour nous engager collectivement à manger différemment, en particulier aucun produit d'origine animale avant le dîner. C'est une position difficile à défendre parce que le sujet est épineux et qu'il résonne par avance des sacrifices qu'il entraînera. Le ton est donné, on y vient. France Culture, il est 13h17.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Pas de viande avant 20h. Alors reste à savoir si c'est une recette aujourd'hui que vous vous appliquez totalement à vous-même et surtout pourquoi la préconiser pour nous. Pourquoi cibler l'élevage intensif et notre consommation de viande? Parce qu'il est l'un des premiers facteurs de la crise, vous l'avez évoqué, une des principales causes du réchauffement climatique. Ou parce que c'est un point de départ concret pour agir, presque une solution de facilité dans l'urgence, plus facile que d'arrêter de faire des enfants.
The IPCC, which is the scientific body of the United Nations,
le GIEC, qui est l'organe consacré, l'organe scientifique des Nations Unies, dans leur tout dernier rapport publié il y a deux mois, je crois, on dit que même si on faisait tout ce qu'on s'est engagé à faire d'autre par rapport aux énergies fossiles, même si tout le monde arrêtait de prendre l'avion, de prendre la voiture et qu'on éteignait toutes les lumières partout, on n'aurait tout de même aucune chance d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour le climat, à moins de manger beaucoup moins de viande. Manger différemment ne suffira pas à sauver la planète, mais nous ne pouvons pas sauver la planète si nous ne mangeons pas différemment. Les quatre choses les plus importantes que nous pouvons faire, je l'ai dit, c'est moins d'avion, vivre sans voiture, avoir moins d'enfants et manger moins de viande. La plupart des gens qui entendent ce discours-là n'envisagent pas aujourd'hui d'avoir un bébé ou non. La plupart des gens qui écoutent aujourd'hui vivent dans des villes qui nécessitent l'usage d'une auto, d'une voiture. Et la plupart des avions que nous prenons, c'est pour le travail ou pour des besoins personnels qui ne sont pas nécessairement liés au loisir, par exemple, aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. Nous avons besoin de diminuer ces trois activités, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas nous dire simplement « bon, bah, aujourd'hui, je décide, je vais faire moins d'enfants ». C'est un peu plus complexe que ça. Mais par contre, toutes les personnes qui écoutent ce programme vont manger un repas dans les heures qui viennent. Et donc, c'est une occasion de commencer à faire la différence. Une des choses, si on change notre régime alimentaire, c'est que ce n'est pas seulement un choix individuel. Les gens mangent en famille, les gens mangent avec leurs amis, ils mangent en relation les uns avec les autres, dans une communauté. Nous vivons dans un monde où nos choix sont plus collectifs et ont plus d'impact qu'ils n'ont jamais été. Amazon sait ce que nous achetons, les magasins savent ce que nous achetons, les restaurants également, donc ces choix sont également énormément suivis. Parfois, on dit c'est injuste de faire peser le fardeau sur les épaules de l'individu alors que c'est un problème systémique. Mais manger différemment est une façon très puissante de changer le système.
Alors, vous donnez beaucoup de chiffres aussi dans cet ouvrage, qui est un texte hybride entre réflexion personnelle, on le disait, réflexion historique, et aussi des données sur, aujourd'hui, le poids de l'élevage. L'élevage comme responsable du dérèglement climatique, comme cause primordiale dont il faudrait venir à bout. Vous l'écrivez aussi, l'élevage est responsable de 91% de la déforestation amazonienne. Le soja, on s'en sert pour nourrir les animaux destinés à être mangés, mais aussi pour nourrir et remplir les assiettes des véganes ou les verts avec le lait végétal. Conséquence ?
Environ 8 millions d'hectares de forêts dans le Grand Chaco ont été défrichés. Cette superficie équivaut approximativement à 3 fois la taille de la Belgique. Si le taux de déforestation continue de progresser à la même vitesse, plus de la moitié des oiseaux seront voués à disparaître d'ici 10 à 20 ans. Si nous ne faisons rien, on risque aussi de perdre 30% des mammifères qui habitent la zone.
La filière soja qui déforeste aussi à tout va à cause de la disparition des oiseaux et des mammifères. Si on sort la viande, le poisson, les œufs de nos assiettes, Jonathan Safran-Foer, par quelle alimentation soutenable, durable, la remplacer? Parce qu'on l'entend dans cet extrait, la viande, l'élevage industriel n'est pas le seul responsable.
Mais
98% du soja qui pousse sur la planète sert d'alimentation pour le bétail. Ce n'est pas pour les gens. Donc si l'objectif est de faire pousser moins de soja, la meilleure manière de faire ça, c'est de manger moins d'animaux.
Mais quand on mangera plus de viande, on mangera plus de soja.
Pas forcément. Moi, je ne mange pas de soja du tout, par exemple. C'est très rare. Il n'y a pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'inventer l'alimentation du futur. Nous avons besoin de manger comme nos parents et nos grands-parents. Ça ne signifie pas devenir vegan ou manger du tofu toute la journée. On ne peut simplement pas avoir les attentes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une assiette devant nous, 2/3 sont composés de viande et puis ensuite un tout petit peu de légumes pour accompagner. Nos grands-parents, nos parents mangeaient de façon beaucoup plus diversifiée, avec du riz, avec des céréales, avec des haricots, avec des légumes et un peu de viande. Donc ça n'a rien de radical. Ce que je suggère, la façon dont nous mangeons aujourd'hui, par contre, est radicale, est extrême. On mange 180 fois plus de poulet qu'il y a un siècle aux États-Unis. Par personne. La quantité de produits d'origine animale que nous mangeons aujourd'hui, en 2019, c'est l'équivalent de la consommation de l'ensemble de la population mondiale au XVIIIe siècle.
50 pounds of meat and drinking 1200 gallons of milk every single day.
Donc des kilos et des kilos de viande et des litres de lait par jour.
À qui d'en décider de ce nouveau et futur régime alimentaire? Est-ce que vous dites aujourd'hui, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, ou est-ce que vous appelez les gouvernements, les responsables, les dirigeants à se saisir de cette question et à légiférer pour réguler notre consommation par notamment des interdictions, comme ça a été fait maintenant avec le tabac?
Bien sûr, j'appelle à cela. J'en appellerai aussi à Dieu pour qu'il me fasse gagner au loto, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est très naïf de placer uniquement notre foi dans les gouvernements que nous avons aujourd'hui. Ils sont complètement irresponsables, et pas seulement en Amérique.
Est-ce
que vous savez combien de pays parmi ceux qui ont signé l'accord de Paris sur le climat ne sont pas en mesure aujourd'hui de répondre aux objectifs?
Pas en mesure, non? Combien?
Alors, ceux qui sont en mesure de le faire, pardon. Ceux qui sont en capacité aujourd'hui. Il n'y en a que deux. Deux pays seulement dans le monde, la Gambie et le Maroc.
Qui seraient capables de respecter leurs engagements.
Respectent aujourd'hui leurs engagements, suivent le bon rythme de changement.
Quand on parle
du climat, nos responsables sont une véritable blague, quel que soit leur discours. Et donc nous aussi, nous sommes ridicules si nous nous attendons à ce qu'ils nous montrent le chemin. Si nous disions « j'aimerais que le gouvernement m'empêche de faire les choses que j'ai envie de faire ». Ce qu'il faut que nous fassions, c'est voter. Bien sûr, voter, c'est ce qu'il y a de plus important à faire quand on est écolo. Mais il faut aussi forcer le système à changer. Et pour forcer le système à changer, on peut utiliser notre argent.
Je voulais vous faire écouter une dernière voix dissonante aujourd'hui et qui est importante dans le débat public, Jonathan Safran-Foer, celle de Paul Ariès, qui est politologue, spécialiste de l'alimentation. Il a écrit « Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser ». Écoutez cette argumentation.
Pourquoi parle-t-on tant aujourd'hui du véganisme? C'est parce qu'il rencontre, en fait, volontairement ou involontairement, les objectifs qui sont ceux du lobby financier, qui est de mettre fin à l'élevage, à toute forme d'élevage. C'est-à-dire que le lobby financier nous dit que d'ici 10 ans, 15 ans, ce qui va se généraliser, c'est cette fausse viande fabriquée à partir de cellules souches, comme on fabrique de la peau artificielle pour les grands brûlés. Et je dirais, il suffit de regarder quelles sont les sociétés qui sont là derrière. Google, Facebook, il suffit de regarder, y compris au niveau européen, le fameux consortium créé par Jeremy Kohler avec un seul objectif qui est d'enterrer, d'en finir avec l'élevage. Et je dirais, ce lobby, c'est déjà aujourd'hui plus de 10 billions, je dis bien billions, de dollars. Et qu'on nous dise pas que les milieux végans ne sont pas les VRP des fausses viandes industrielles. Prenez l'association animaliste Gaïa en Belgique, elle promeut ces fausses viandes. Prenez Paul Shapiro, l'un des principaux végans à l'échelle mondiale, qui vient de publier un ouvrage salué comme le Washington Post, comme le livre de l'année. C'est le meilleur VRP possible de ces fausses viandes. Donc il y a effectivement aujourd'hui une convergence entre les milieux végans et puis effectivement le lobby financier et même une partie du lobby de la viande, ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que la principale entreprise au monde en matière de production de viande, ThyssenFoods, a pour objectif de devenir une entreprise végane.
Voilà, comme le dit Paul Ariès, Jonathan Safran-Foer, est-ce que comme avec la cigarette et le lobby du tabac, vous n'avez pas peur aujourd'hui d'être victime du lobby des fausses viandes? Est-ce que vous ne craignez pas d'être instrumentalisé?
Il y a peut-être un lobby de la chimiothérapie, en fait. Et je ne pense pas que ça me rendrait intelligent si je décidais de ne pas soigner mon cancer. Bien sûr que les forces du marché sont impliquées là-dedans. Et bien sûr, il n'y a pas de lobby plus important que celui de l'élevage, à vrai dire. Mais ça semblait un petit peu enfantin, ce qui vient d'être dit, un peu puéril et un peu hystérique. Quelqu'un fait de l'argent là-dessus, donc on ne devrait pas les écouter. Le seul discours qui compte et qu'il faut entendre, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de Greta Thunberg, ce n'est pas celui du lobby de la viande et ce n'est pas celui du lobby vegan. La seule voix qui compte aujourd'hui, c'est celle des scientifiques. Et ça n'a rien d'une controverse, il n'y a rien d'ambigu là-dedans. Non, la science nous dit qu'il faut que nous mangeons moins de viande. J'ai fait une tournée pour ce livre aux États-Unis et je faisais un événement chaque soir dans une ville différente. Et très souvent, j'étais en dialogue avec des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur le climat, pas des gens qui travaillent pour les lobbies. Chaque scientifique avec qui j'ai partagé ces plateaux était végétarien, tous, jusqu'au dernier. Et je me suis dit, mais c'est extrêmement surprenant. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas davantage? Ils m'ont dit, écoutez, moi je ne prends pas de jet privé, je n'ai pas de 4x4, et je ne mange pas de viande. En fait, ça c'est la base, et ce sont des faits scientifiques, et ça doit être notre point de départ à tous. Et
une dernière chose,
la personne qui vient de parler n'a pas arrêté de revenir au terme vegan et essayer d'en faire une politique identitaire au lieu d'une réalité scientifique. La réalité scientifique ne dit pas que nous devons devenir vegan. Il faut simplement qu'on mange moins de viande.
Merci beaucoup à vous, Jonathan Safran-Foer. Dans ce livre aussi, vous engagez une grande discussion avec l'âme et une grande réflexion autour de la mort, avec cette idée que nos civilisations vont devoir aussi apprendre à mourir déjà pour peut-être revivre. Merci d'avoir été avec nous autour de cette grande table et un grand merci à toute l'équipe, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix et Sophie Catherine Gallet, qui ont programmé et préparé cette émission avec l'aide précieuse de François Bréhus et de Sophie Marty. Merci à Marguerite Capelle pour sa traduction, et à Éric Lancien pour sa réalisation. Alex Dang était à la technique aujourd'hui, à la vidéo Swat Boukorsa et Jordan Fuentes. Très bel après-midi sur France Culture.